Chapitre 21. Dans la lumière du petit matin, le paysage semblait s'étendre à l'infini sous son aéromobile, gris et jonché d'ordures. Des rochers de la taille d'une maison avaient roulé jusqu'à s'arrêter les uns à côté des autres. « Ça ressemble à un entrepôt d'expédition », songea-t-il, quand il ne reste plus de marchandises. Il n'y a plus que des morceaux de caisses vides. Des conteneurs qui ne signifient rien en eux-mêmes. Jadis, des récoltes poussaient ici, et des animaux y paissaient. Quelle idée incroyable d'imaginer que quoi que ce soit ait pu brouter de l'herbe en ces lieux. Et quel étrange endroit pour mourir, pour qui que ce fût. Il perdit de l'altitude pour poursuivre quelque temps sa route en rase-motte. Qu'est-ce que Dave Holden dirait de moi maintenant? En un sens, je suis le plus grand chasseur de primes de tous les temps. Personne n'a jamais retiré 6 Nexus 6 en moins de 24 heures. Et je doute que qui que ce soit y parvienne à l'avenir. Je devrais l'appeler. Un flanc de colline se rapprochait dangereusement. Il fit s'élever in extremis son véhicule pour éviter l'impact. L'épuisement, songea-t-il. Je ne devrais pas conduire dans cet état. Il coupa le contact, se laissa planer un moment, puis atterrit. Le véhicule culbuta et rebondit sur les rochers dispersés dans la pente pour finir par s'immobiliser dans un dernier grincement, capot pointé vers le ciel. Rick s'empara du vidéophone de l'aéromobile et appela l'opérateur de San Francisco. Passez-moi à l'hôpital Mount Zion, s'il vous plaît. Une standardiste apparut bientôt sur l'écran miniature. « Hôpital Mount Zion. » « Vous avez un patient du nom de Monsieur Dave Holden. Est-il en état d'avoir une conversation ?»«
Juste un instant, monsieur, je vais vérifier. »
Elle disparut de l'écran. Les secondes devinrent des minutes. Dans un frisson, Rick prit une pincée de Dr. Johnson. Sans chauffage, la température de l'habitacle avait commencé à plonger.
Le docteur Costa dit que Monsieur Holden n'est pas en état de recevoir des appels,
indiqua enfin la standardiste à sa réapparition.
C'est une affaire de police,
dit-il en présentant à l'écran sa pièce d'identité.
Un instant.
Et de disparaître de plus belle. Rick inhala une nouvelle pincée de Dr. Johnson. Le mélange mentholé avait du mal à passer si tôt dans la matinée. Descartes descendit la fenêtre pour jeter la petite boîte jaune dans les graviers.
Non, monsieur,
reprit enfin la standardiste. D'après le docteur Costa, l'état de monsieur Holden ne lui permettra pas de parler au vidéophone, pour quelque raison que ce soit, avant au moins...
D'accord.
Et il raccrocha. L'air matinal avait lui aussi quelque chose d'infect. Rick remonta la fenêtre.
Dave est donc vraiment hors jeu,
se dit-il.
Je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir. Parce que j'ai agi promptement. Tous en une journée, ils ne pouvaient pas s'y attendre. Bryant avait raison.
Il faisait vraiment trop froid dans l'aéromobile. Aussi, en ouvrit-il la porte pour sortir. Un vent nauséabond, tout à fait inattendu, s'immissa dans ses vêtements et le glaça jusqu'aux os. Il se mit à marcher en se frottant les mains.
Ça aurait vraiment été gratifiant de pouvoir parler avec Dave. Il aurait probablement approuvé ce que j'ai fait. Mais il aurait aussi compris le reste. Ce que même Mercer n'a pas vu, à mon avis. Tout est facile pour Mercer, parce qu'il accepte tout. Rien ne lui est étranger. Contrairement à moi, mes propres actes me sont devenus étrangers. En fait, tout ce qui me concerne est devenu anormal. Je me suis transformé en un être contre nature.
Il poursuivit son ascension, sentant le poids qui pesait sur ses épaules s'alourdir à chacun de ses pas.
Trop fatigué pour grimper,
se dit-il. Il s'arrêta pour essuyer la sueur qui lui piquait les yeux. Des larmes salées produites par sa peau, par tout son corps douloureux. Puis, en colère contre lui-même, il cracha. Cracha son mépris, sa haine de soi, sur le sol stérile. Et reprit sa pénible progression sur cette pente désolée, inconnue, éloignée de tout. Rien d'autre n'y vivait que lui-même. La chaleur. Il s'était mis à faire chaud. À l'évidence, du temps avait passé. Eric se sentait affamé. Dieu seul savait depuis combien d'heures il n'avait rien mangé. Faim et chaleur se combinaient pour remplir sa bouche d'un goût pernicieux qui évoquait la défaite.
Oui. C'est exactement ça. J'ai été vaincu, sans trop savoir comment. En retirant les androïdes. Quand Rachel a tué ma chèvre.
Il l'ignorait, mais un voile de brume presque hallucinatoire enveloppait son esprit, tandis qu'il poursuivait sa progression d'un pas lourd. À un moment, il se retrouva malgré lui à un pas d'un précipice, sur le point d'accomplir une chute presque certainement fatale.
Une chute humiliante, irréversible,
songea-t-il. Sans personne pour y assister. Il n'y avait personne ici pour consigner sa déchéance, la sienne ou celle de quiconque. Personne pour remarquer un éventuel sursaut de fierté qui se serait manifesté à la fin. Les pierres mortes, les mauvaises herbes envahies de poussière, desséchées et mourantes, ne percevraient rien, ne se rappelaient rien. Ce fut alors que la première pierre, et ce n'était ni du caoutchouc ni du plastique mou, l'atteignit à l'aine. Et la douleur, la prise de conscience d'une solitude et d'une souffrance absolue, se fraya un chemin à travers l'intégralité de sa forme présente. Il s'immobilisa. Mais quelque chose d'invisible, et pourtant de réel, quelque chose d'impossible à défier, le força alors à reprendre son ascension.
« Je monte en roulant, »
songea-t-il,
« comme les pierres. Je fais ce qu'elles font, sans volonté, et sans que ça ait la moindre signification. « Mercer !»
parvint-il à lâcher entre deux halètements alors qu'il faisait une pause. Il distinguait devant lui une vague silhouette immobile.
« Wilbur Mercer !» « Est-ce bien toi ?»« Mon Dieu »
comprit-il soudain.
« C'est mon ombre. Il faut que je parte d'ici. Que je redescende de cette colline. »
Il dévala aussitôt la pente, tomba une fois. Des nuages de poussière obscurcissaient tout, des nuages qui semblaient le poursuivre. Il accéléra encore, glissant et trébuchant sur les cailloux. Devant lui, il aperçut enfin son aéromobile.
« J'y suis arrivé, »
se dit-il,
« à m'échapper de cette colline. »
Il ouvrit la portière, se glissa à l'intérieur.
« Qui m'a jeté cette pierre ?»« Personne. » « Mais pourquoi est-ce que ça me tourmente à ce point ?»« J'ai déjà vécu cette expérience pendant la fusion. » En utilisant ma boîte à empathie, comme n'importe qui d'autre. Ça n'a rien de nouveau. Mais là, c'était différent. Parce que je l'ai fait seul.
Tout tremblant, il sortit une nouvelle boîte de tabac à priser de la boîte à gants de son véhicule. Après en avoir arraché la bande de protection, il en prit une énorme pincée, encore à moitié assis à l'extérieur, un pied toujours sur le sol aride et poussiéreux.
C'était le dernier endroit où venir,
se dit-il.
Je n'aurais pas dû voler jusqu'ici.
D'autant qu'il se retrouvait à présent trop épuisé pour repartir.
Je me sentirais mieux si je pouvais juste parler avec Dave. Je pourrais partir d'ici. Je rentrerai chez moi et je me coucherai. J'ai encore mon mouton électrique et j'ai encore mon boulot. Il y aura d'autres endroits à retirer, ma carrière n'est pas terminée. Je n'ai pas retiré le dernier endroit du monde. C'est peut-être ça le problème,
songea-t-il.
J'ai peur qu'il n'y en ait plus. »
Il consulta sa montre. 9h30. Descartes reprit le combiné pour appeler le palais de justice de Lombard Street.
« J'aimerais parler au commissaire Bryant, » dit-il à Mademoiselle Wilde,
la standardiste de la police.
« Il n'est pas dans son bureau, monsieur Descartes. Il est parti en voiture, mais je n'arrive pas à le joindre. Il doit en être temporairement sorti. »
« Est-ce qu'il a dit où il comptait se rendre ?»«
C'était en relation avec les androïdes que vous avez retirés hier soir. »
« Passez-moi ma secrétaire, s'il vous plaît. »
Quelques instants plus tard, le visage triangulaire constellé de taches de rousseur de Mademoiselle Marston apparut à l'écran.
« Ah, monsieur Descartes, le commissaire Bryant a essayé d'entrer en contact avec vous. Je crois qu'il est en train de donner votre nom au chef Cutter pour une citation. Le retrait de ces six...
Je sais ce que j'ai fait.
C'est la première fois que ça arrive. Oh, et votre femme a appelé, monsieur Descartes. Elle voulait savoir si vous alliez bien. » « Vous allez bien ?»
Il se garda bien de répondre.
« En tout cas, vous feriez peut-être bien de la rappeler. Elle a laissé un message disant qu'elle restait à la maison en attendant. »«
Vous êtes au courant pour ma chèvre ?»«
Non. Je ne savais même pas que vous en aviez une. » »«
Ils me l'ont prise. »«
Qui ça, monsieur Descartes ? Des voleurs d'animaux ? On vient justement de recevoir un rapport sur un nouveau gang, sans doute des adolescents, qui opèrent. »
Des voleurs de vie.
Je ne comprends pas, monsieur Descartes.
Elle le dévisagea.
Monsieur Descartes, vous avez vraiment une sale mine, vous avez l'air épuisé. Et, mon Dieu, vous saignez de la joue.
Il leva une main qu'il retira poisseuse de sang. Une pierre, probablement. Il en avait donc manifestement reçu plus d'une.
« Vous ressemblez à Wilbur Mercer, » fit Mademoiselle Marston.
« Bien sûr, »
répondit-il.
« Je suis Wilbur Mercer. J'ai fusionné avec lui de manière permanente. Je n'arrive plus à défusionner. Je suis assis là, près de la frontière de l'Oregon, à attendre de défusionner. »
« Vous voulez qu'on envoie quelqu'un ? Une voiture du service peut passer vous prendre ?»«
Non, » dit-il. « Je ne fais plus partie du service. » »«
Vous en avez manifestement trop fait hier, monsieur Descartes, »
le réprimanda-t-elle.
« C'est d'aller vous coucher dont vous avez besoin à présent. » »« Monsieur Descartes, vous êtes notre meilleur chasseur de primes, le meilleur que nous ayons jamais eu. » Je dirai au commissaire Bryant que vous avez appelé à son retour. Vous, rentrez chez vous et mettez-vous au lit. Et appelez votre femme tout de suite, monsieur Descartes. Elle est terriblement inquiète. Croyez-moi, vous êtes tous les deux dans un sale état.
C'est à cause de ma chèvre,
fit-il.
Pas des androïdes. Rachel avait tort. Les retirer ne m'a pas gêné le moins du monde. Et le spécial aussi, à propos de mon incapacité à refusionner avec Mercer. Le seul qui ne se soit pas trompé, c'est Mercer.
Vous feriez mieux de retourner dans la baie, monsieur Descartes. Il n'y a pas la moindre âme qui vive à proximité de l'Oregon, n'ai-je pas raison? Vous êtes bien tout seul.
C'est étrange, reprit Rick. J'ai eu l'illusion absolue, totale, incroyablement réel, que j'étais devenu Mercer et que des gens me bombardaient de pierres. Mais c'était différent de ce qu'on expérimente avec les deux mains sur les poignets d'une boîte à empathie. Dans ce cas-là, on se sent avec Mercer, alors qu'il n'y avait personne avec moi. J'étais complètement seul.
Il paraît que Mercer serait un escroc, en fin de compte.
Mercer n'est pas un escroc. Ou alors c'est toute la réalité qui est une escroquerie. Cette colline, cette poussière, ces innombrables pierres, toutes différentes.
J'ai peur de ne plus pouvoir m'arrêter d'être Mercer. Une fois qu'on a commencé, c'est trop tard pour revenir en arrière.
Est-ce que je vais devoir refaire l'ascension de la colline ? Se demanda-t-il. À jamais, comme Mercer, pris au piège de l'éternité.
Au revoir, dit-il, s'apprêtant à raccrocher. Vous allez appeler votre femme, promis.
Oui.
Merci, Anne. Il raccrocha.
Mon lit. La dernière fois que je me suis couché sur un lit, c'était avec Rachel, en violation de la loi. Copulation avec un androïde, c'est absolument interdit, ici comme sur les mondes coloniaux. Elle doit avoir atteint Seattle à l'heure qu'il est. Elle doit se trouver avec les autres Rosen, humains et humanoïdes. J'aimerais pouvoir te faire ce que tu m'as fait, souhaita-t-il. Mais c'est impossible. Les androïdes n'ont pas de sentiments. Si je t'avais tué hier soir, ma chèvre serait encore vivante aujourd'hui. C'est là que j'ai pris la mauvaise décision. Oui. Tout remonte à ça. Ainsi qu'à la nuit qu'on a passée ensemble. En tout cas, tu avais raison sur un point. Ça m'a changé. Mais pas de la façon que tu avais prévue. D'une façon bien pire. Et pourtant, je n'en ai plus vraiment grand-chose à faire. Plus maintenant. Pas après ce qui m'est arrivé là-haut, vers le sommet de la colline. Je me demande ce qui aurait suivi si j'avais continué mon ascension jusqu'au bout. C'est là que Mercer a l'air de mourir. C'est là que son triomphe se manifeste, au terme du grand cycle sidéral. Mais, si je suis Mercer, je ne mourrai jamais, pas même au bout de 10 000 ans. Mercer est immortel.
Une fois encore, il s'empara du combiné pour appeler sa femme. Et se figea.